Irène Rosier-Catache, vous êtes directrice de recherche au CNRS et aussi directrice d'études à l'École pratique des hautes études en section des sciences religieuses. Comment est-ce qu'on arrive à ce poste ?
J'ai commencé par des études de linguistique, mais je me suis toujours intéressée à ce qu'il y avait derrière les théories linguistiques. Donc je me suis tout de suite intéressée aux enjeux des théories linguistiques.
D'où ça vient cet intérêt ?
Dans la linguistique, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelait avant la grammaire, donc la description des langues, de toutes les langues, la description formelle des langues, mais il y a aussi un certain type de théorie sur le langage, un certain point de vue sur le langage. Et ces points de vue sur le langage, ces théories sur le signe, sur la communication, si on prend le langage en contexte par exemple, ou si on le prend d'un point de vue formel en étudiant les règles, tout ceci a des enjeux philosophiques extrêmement importants et c'est ça qui m'intéressait. C'était plutôt les enjeux que les théories elles-mêmes.
Les enjeux qui sont derrière, finalement.
Derrière les théories.
Et alors, comment est-ce que ça a continué?
Alors, donc,
cette recherche?
J'étais linguiste de formation, mais toujours philosophe, je crois, de cœur. Et donc, j'ai tout de suite été chercher du côté des grammaires philosophiques. Donc, il y a eu une
Qu'est-ce que c'est qu'une grammaire philosophique?
Alors, une grammaire philosophique, c'est justement une grammaire qui ne s'intéresse pas seulement aux règles de description du sujet, du verbe, du complément, toutes ces petites choses, cette petite grammaire, disons, qu'on apprend à l'école, mais qui ont une certaine conception du langage. Donc au XVIIIe, il y a une grande vague des grammaires philosophiques et il y en a eu beaucoup au Moyen-Âge. Ce qu'on appelle la grammaire spéculative, la grammaire des philosophes de l'université qui ont développé une théorie du langage, plus qu'une grammaire.
Alors, quels étaient leurs enjeux ?
C'était de faire une grammaire universelle, c'est-à-dire de dire qu'il y avait sous toutes les langues, malgré leur diversité, des principes universels du langage. Donc, c'était vraiment une sorte de grammaire universelle qui est d'une grande richesse. C'était des grammairiens, des gens qui enseignaient à l'université médiévale, donc qui étaient formés à la philosophie et qui voulaient chercher tout ce qui, derrière la diversité des langues, la diversité de la surface des langues, étaient des principes universels qui étaient pour eux applicables à toutes les langues. Donc à partir de ces principes aristotéliciens, ils ont voulu construire une grammaire universelle.
Est-ce qu'on peut dire justement que cette recherche de l'universalité dans les langues, c'était une autre façon d'être dans la tour de Babel ?
On viendra à la tour de Babel. Ce qui est formidable justement, c'est qu'à l'université à cette époque-là, il était strictement interdit de se poser des questions théologiques. Et ça, on va vers ce à quoi je suis arrivée. C'est qu'à un moment donné, j'ai vu que derrière ces questions purement philosophiques, puisque statutairement, il ne devait pas parler de théologie, il y avait quand même effectivement une quête de l'universalité qui était assez présente dans la société médiévale. Le fait que ça soit une société chrétienne avec un message universel, on devait chercher des principes universels derrière la diversité des langues. Ça sera la quête des théologiens. Les grammairiens de l'université l'ont cherché sur un mode aristotélicien. Et c'est cette sorte de coprésence de choses qui en apparence étaient contradictoires qui m'a intéressée.
Alors vous en êtes venue à la théologie ?
Voilà, j'en suis venue à la théologie. En fait, par un biais assez intéressant, c'est qu'il y avait d'autres auteurs, en particulier un auteur qui est assez formidable, qui s'appelle Roger Bacon, qui est un Anglais qui a enseigné à Paris au milieu du XIIIe siècle, qui, lui, développait une autre conception du langage. Et sa conception du langage était moins une attention aux mots, aux signes, à la matérialité du langage, qu'à l'intention de signifier. C'est-à-dire que pour lui, ce qui comptait avant tout, c'était l'intention avec laquelle on prononçait les paroles.
Donc la voix.
La voix, le contexte, le rituel, il était dans cette dimension-là. Et donc, non seulement il s'en occupait dans cette optique-là, mais il s'occupait aussi, par exemple, de la magie, des paroles magiques. Et il a y développé une sorte de conception du langage totalement étonnante, où l'intention de signifier, l'intention du locuteur était importante. Et là, évidemment, l'auteur, le grand auteur, sa grande source, c'était saint Augustin. Il se trouve que j'ai été formée à Montréal et je suis tombée sur des anciens dominicains qui m'ont dit « Mais si tu t'intéresses à la question de l'intention, il faut que tu ailles regarder tous les textes, y compris ceux de Thomas d'Aquin, sur les sacrements. Parce que toute cette parole efficace que tu as chez Bacon, eh bien, dans ces textes sur le baptême, dans ces textes sur les sacrements, mais tu vas trouver une mine. Et je me suis plongée dans les œuvres de saint Thomas. Et effectivement, dans ces textes de théologiens, il y avait une mine qui n'avait pas tellement été explorée. Puisque à partir du moment où il considérait que les sacrements étaient des signes, il y avait toute une sémiotique, toute une sémiotique augustinienne. Or, au Moyen-Âge, on avait quelque chose en plus d'Augustin qui était l'idée que ces signes n'étaient pas seulement signifiants, mais efficaces. Le sacrement est un signe qui fait ce qu'il dit. Or, ce qui est passionnant, c'est que le signe qui fait ce qu'il dit, c'est la définition de ce qu'on appelle en philosophie du langage la performativité, c'est-à-dire l'idée que comment quand on dit quelque chose, on fait quelque chose.
C'est-à-dire qu'on dit et on fait.
Et on fait. Mais ce qui était tout à fait particulier à cette époque-là, c'est que ces théologiens étaient formés à la grammaire et la logique que j'avais étudiée antérieurement. Dans tous ces chapitres sur la forma du sacrement, ces théologiens étaient grammairiens et logiciens. Et je retrouvais ma question absolument fascinante de l'intention. Est-ce que l'important pour un prêtre est d'avoir l'intention de baptiser ou de dire la formule exacte? La discussion s'est beaucoup accrochée à une formule d'Augustin qui est formidable sur savoir si le sacrement agit, est-ce que c'est parce qu'on y croit ou parce qu'on le dit? Si on insiste sur la formule, donc sur le rituel, il y a tous ces problèmes, non seulement de prononciation qui peuvent être incorrectes, mais aussi de diversité des langues. Les formules sont différentes dans les langues. Est-ce qu'elles sont équivalentes? Donc, on revient vers l'intention. Mais si on s'en tient à l'intention, mais l'intention, personne ne la connaît, l'intention. Et là, encore une fois, j'ai été obligée de me déplacer dans la mesure où on retrouvait derrière ces théories qui étaient en ambiance théologique, on peut dire, des questions de droit, c'est-à-dire que la question du serment. Qu'est-ce que c'est qu'un serment? Est-ce qu'un serment est important, comme dit Augustin, par la bouche du cœur ou par la bouche du corps? Autrement dit, ce qui engage dans le serment, est-ce que c'est ce qu'on dit? Ce qu'on dit est la seule chose que l'autre peut entendre? Ou est-ce que c'est ce qu'on a dans le cœur, que Dieu peut connaître, mais pas l'autre? Et donc là aussi, toujours cette tension entre les paroles et l'intention profonde.
Vous parlez d'intention, est-ce que vous incluez l'acte de croire?
Là, les théories divergent. Dans tous ces textes, on voit qu'il y a quelque chose de profondément humain. C'est le rôle du prêtre, c'est le rôle de la parole humaine. Dieu, au bout du compte, il aurait pu, mais il n'a pas fait. Donc à partir du moment où il a instauré les sacrements sont dits par des hommes qui sont faillibles, qui parlent, et donc c'est ça qui les intéressait. Autrement dit, c'est les causes secondes, c'est pas les causes premières, c'est vraiment une anthropologie. Et c'est dans ce sens que, que c'est universel. Ce qui est formidable dans le Moyen-Âge, c'est que non seulement il y a des rituels de parole et qui scandent la vie quotidienne de toute la société, donc c'est quelque chose de fort, mais ce qui est absolument exceptionnel, c'est qu'on ait des personnes, des théologiens, qui ont théorisé sur ces rituels, et qui ont cherché les motifs derrière, les motifs rationnels. Et ça, jamais on l'a. Et ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, ils ont réfléchi parce que ces théologiens étaient des philosophes et des grammairiens et des logiciens.
Irène Rosier-Cattache, comment est-ce qu'elle vous travaille, ces recherches? Qu'est-ce qu'elles font en vous?
En fait, on s'aperçoit que c'est des questions qui sont posées dans un certain cadre parce que la société médiévale est chrétienne et donc on se les pose dans un cadre chrétien, mais que ce sont des questions universelles. Par exemple, la question de la diversité des langues, la question de l'unité. Chez Dante, c'est très clair que la question du premier langage d'Adam, la question de Babel, la diversité, et puis le retour à l'unité nécessaire à la vie commune, c'est une question universelle. Qu'est-ce qu'on fait de la diversité des langues? Donc ça, ce sont des questions universelles. Moi, c'est un petit peu comme ça que je prends les choses, c'est-à-dire que je trouve dans ces théories des questionnements qui sont suscités par une certaine forme de croyance sociale, une certaine forme de société, un certain type de texte de référence philosophique et théologique, mais que derrière ça, finalement, on retrouve des questions qui sont assez universelles. Qui décide du sens du signe? Est-ce que c'est l'institution? Est-ce que c'est le corps social? Est-ce que c'est l'intention de la personne? Est-ce que c'est l'autre? Autrement dit, est-ce que c'est la personne qui produit le signe ou est-ce que c'est la personne qui le reçoit? Et en fait, toutes ces questions-là, elles étaient posées dans ce corpus sur les sacrements. Qu'est-ce qui fait l'efficacité d'un signe? Et ça, c'est une question universelle qui s'est posée de façon formidablement complexe dans ces textes-là, parce qu'il y avait un enjeu à cette époque-là. Mais on s'aperçoit que les enjeux, elles sont même dans une société totalement différente et à propos d'autres questions. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Et puis après, on retrouve des questions extrêmement générales. Par exemple, l'efficacité de la parole, ça touche à la parole politique, à la parole du droit, au serment. Ça touche à l'engagement aussi dans l'interlocution avec les autres. Ça touche aussi à la parole collective. Dans quelle mesure les gens doivent s'entendre pour avoir un langage commun pour vivre ensemble, par exemple. Donc ça, c'est des questions générales. Et moi, je conçois mon travail d'historienne, historienne des idées, on pourrait dire, sur les questions, sur le champ du langage, que dans ce va-et-vient entre des questionnements concrets et des façons extrêmement techniques qu'ont eu les médiévaux de les poser et qui peuvent nous apprendre quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne.